Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous poursuivons aujourd'hui notre conversation avec Barbara Cassin, une conversation entamée la semaine dernière autour de son livre Éloge de la traduction, compliqué l'universel, paru aux éditions Fayard, et de sa réflexion sur les intraduisibles, sur les enjeux de la diversité des langues dans un monde post-babélien. Alors, la semaine dernière, Barbara Cassin, nous discutions ensemble des rapports entre diversité des langues et politique autour de cette formule que nous avons citée mais que nous n'avons pas pris véritablement le temps de commenter, cette formule très belle, très signifiante d'Umberto Eco, « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Dans votre livre, vous la commentez dans deux directions différentes sur lesquelles j'aimerais vous entendre revenir. D'abord contre la prétention d'un anglais dégradé que vous appelez le globish, le global English, à finalement servir d'outil de communication universelle au risque de l'appauvrissement de toutes les nuances que portent les langues. Et puis aussi dans une autre direction qui est celle de croire qu'on peut finalement avoir une sorte de nationalisme linguistique, être tellement fier de sa langue et de la prétention de sa propre langue à dire l'universel, qu'on entre dans une hiérarchie des langues et des cultures. Barbara Cassin, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Du coup, comment réenchanter l'Europe à partir de cette formule?
D'abord, vous le dites très bien, en refusant le globish, c'est-à-dire une uniformisation par le bas, avec une langue commune qui n'est pas une langue et dont les seules œuvres sont les demandes de subventions à l'Europe. On sait que nous, chercheurs...
On entend la chercheuse là,
oui,
qui s'exprime.
C'est monstrueux, je veux dire, même quand nous sommes jugés par des Français, nous devons écrire un anglais d'une pauvreté remarquable et qui n'est pas de l'anglais. C'est-à-dire que le seul anglais que personne ne comprenne, c'est l'anglais d'Oxford, c'est clair. Bon, donc, à quoi ça sert, le globish? Ça sert essentiellement à classer et au ranking.
C'est à très évaluer.
Bien, à évaluer, mais au sens, voilà, la qualité est une propriété émergente de la quantité, voilà, nous y sommes. Bon, alors... À part cette vexion terrifiante et qui est une véritable vexion de l'Europe, hein, la non moins terrifiante symétrie, je la trouvais dans le nationalisme ontologique, c'est-à-dire dans, au fond, une manière de penser les langues à la Heidegger, avec un génie propre à chaque langue et des langues plus géniales que d'autres, en l'occurrence le grec et l'allemand, encore plus grec que le grec. Moyennant quoi, vous pouvez toujours essayer de faire de la philosophie en français, en italien, en anglais. Ce ne sera jamais très... En espagnol, on n'en parle même pas. Bon, donc, voilà. Et le nationalisme ontologique, évidemment, est lié à quelque chose de l'ordre de l'identité nationale, une espèce de génie des langues qui est enraciné, comme dit Heidegger, enraciné dans un sol et dans une race. Bon, cela, évidemment, nous n'en voulons pas. Évidemment.
En même temps, la frontière est difficile à tracer entre la perception de la saveur d'une langue
Absolument. Et
le génie d'un peuple qui s'exprime dans sa langue.
Absolument. Donc la frontière, je pense, elle est même impossible à tracer. C'est-à-dire qu'il faut simplement refuser de... Enfin, on peut aimer la culture d'un peuple, aimer la culture... à travers des textes. C'est ce que Hannah Arendt disait pour elle. Elle disait que sa patrie, c'était sa langue.
L'allemand.
Mais,
la langue des nazis aussi, la langue que les nazis s'étaient appropriée,
voilà,
mais qu'elle reprend à son compte comme langue de culture.
Et c'est sa patrie. Et sa patrie, c'est l'allemand, pas l'Allemagne. Moi, je dis que si ma patrie est le français, pas la France, c'est assez juste. Et du coup, ça me permet aussi d'être un peu apatride et d'avoir plusieurs patries, c'est-à-dire que le grec est bien ma patrie aussi, bien que la Grèce ne le soit pas. Bon, c'est comme ça que je jouerais autour du génie, du rapport entre génie, enracinement, si vous voulez, et culture, nation, état et culture.
Alors, il y a une autre manière de, j'allais dire, de se tirer de ce débat sur la langue unique ou sur le globiche, sur la langue de communication universelle. On a cru un temps qu'on pouvait parier sur l'espéranto. Vous avez des mots très durs contre l'espéranto, d'ailleurs, parce que c'est pas une option, c'est juste un appauvrissement de toutes.
Et puis c'est vraiment pas universel, c'est-à-dire que c'est vraiment basé.
C'est très européen.
C'est très indo-européen. Et Michel Deguy appelle ça le désespéranto. Je sais pas si c'est juste.
Bon, en tout cas, c'est plus ou moins enterré. Mais il y a une autre manière de se tirer de ce débat, c'est de fabriquer, et on a beaucoup progressé en la matière, des logiciels de traduction automatique qui aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, quand les programmes type Google Translate ou les logiciels de traduction automatique de Facebook par exemple ont démarré. Ils traduisaient mot à mot, c'est-à-dire chaque mot était rapporté à son équivalent en anglais. Et ça tournait comme ça à partir d'un pivot unique. C'est ce que vous expliquez dans... une langue pivot qui était l'anglais de départ. Aujourd'hui, ces logiciels de traduction automatique, ils ont fait beaucoup de progrès. Ils disent beaucoup moins de bêtises. On a beaucoup moins d'effets comiques quand on entre un texte. Avant, c'était très, très drôle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace. Parce que ces logiciels de traduction automatique, ils ont intégré dans leur auto-apprentissage une part de la mémoire contextuelle des mots, des expressions.
Part de la culture.
Une part de la culture. Alors, est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la nouvelle langue de communication universelle, Barbara Cassin?
Vous voulez dire la traduction automatique comme nouvelle langue de communication universelle?
Comme nouvelle utopie capable de combler, j'allais dire, le malheur de la diversité. Puisqu'il y a une dimension d'opportunité, de chance dans Babel, on était parti ça la semaine dernière. Et puis, il y a une dimension quand même incontestable de problème.
Mais pas malheur.
Voilà, peut-être pas malheur, mais en tout cas de problème, d'obstacle, d'objection, de difficulté.
De difficulté.
De conflit aussi potentiel.
Oui, pas plus que dans l'université. Hein. les conflits sont encore pires quand on dit la même chose et que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est encore pire, là. Mon premier travail, c'était sur le dialogue entre Leibniz et Arnaud, qui disait ensemble, tout ce qui n'est pas un être n'est pas non plus un être. Quand ils le disaient, ils n'accentuaient pas un être de la même manière. Et donc, là, c'était irréconciliable.
Donc, jusque dans la formule tautologique.
Voilà. Je pense que c'est très très intéressant ce qui se passe avec la traduction automatique, avec la traduction, disons, avec les modifications, les nouveautés dans l'apprentissage de la traduction, l'auto-learning de la traduction. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup moins de bêtises, beaucoup moins d'effets comiques, et que ça ressemble beaucoup plus, si j'ose dire, au dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire qu'on prend un nuage de mots et un nuage de mots. On prend des mots en contexte et des mots en contexte. Et des mots en contexte syntaxique et des mots en contexte syntaxique. Donc, c'est beaucoup plus intelligent. Maintenant, je ne crois pas que pour autant, ça soit la simple solution. Cliquer sur un bouton, un jour ou l'autre, ça sera possible. On cliquera sur un bouton à partir d'un texte et on l'obtiendra dans une autre langue. Bien.
En permettant à chacun de se contenter, du coup, de sa propre langue. Chacun pense dans sa langue, écrit dans sa langue et se fait comprendre du monde.
Et bien alors, justement, chacun pense dans sa langue et quoi? Et comprend quoi du reste du monde? Ce qui m'intéresse, moi, c'est le passage de l'un à l'autre. Si ce passage, c'est pour ça que je disais cliquant sur un bouton, si ce passage c'est cliquer sur un bouton, on n'apprendra pas grand-chose. On ne sortira pas de sa propre langue. Et c'est ça qui me paraît très grave. Ça suppose qu'une langue n'est jamais qu'un moyen de communication. Donc, ok, la communication passera. Et alors, qu'est-ce qui ne passera pas? Il ne passera pas le type de perception de l'autre, le type de vision du monde. Ça, c'est un terme un peu idéaliste de Humboldt, par exemple, des linguistes du 19e, du romantisme allemand. Mais ça ne passera pas.
Et ça se perçoit en littérature, par exemple, dans les choix du traducteur, d'un traducteur littéraire, je veux dire, pas d'un interprète, au sens de l'interprétariat.
Oui.
Et en même temps, le traducteur littéraire, c'est celui qui interprète le plus fortement les textes, celui qui en fixe le sens, vous dites. Est-ce que c'est ça qu'on va perdre dans le...
Non, ce que je crois, c'est qu'on va perdre le vacillement entre. C'est ça qu'on va perdre. C'est ce geste, disons, énergétique des langues qui fait que une langue n'est jamais close, un texte n'est jamais clos. Et que c'est pour ça que vous faites très justement le lien entre interprète et interprète. Interpréter au sens herméneutique du terme et interpréter au sens de traduction. Un bon interprète est évidemment un interprète, c'est-à-dire un herméneute. Et le traducteur est à la fois interprète et herméneute. Donc, ce qui me manquera dans le simple clic qui fait passer d'une langue à l'autre, c'est l'épaisseur non communicationnelle de la langue. Et ça me manquera toujours. Alors, on peut appeler ça le génie des langues avec tous les problèmes que ça pose, on peut appeler ça l'identité culturelle avec tous les problèmes que ça pose, mais c'est à ces problèmes-là qu'il faut s'affronter.
Et on peut appeler ça aussi la réserve de sens qu'il y a dans chaque expression, dans une langue donnée.
Absolument, dans chaque langue et dans chaque texte.
Il y a quelque chose qui fait rebondir à chaque fois la pensée, dans l'usage de telle ou telle manière de le dire.
Oui, ce qui me paraît aussi très important, c'est que les langues évoluent, et elles évoluent par le passage d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que chaque traduction enrichit et fait bouger une langue, de même que, d'ailleurs, chaque locution, chaque interlocution, chaque discours dans une langue, chaque texte dans une langue la fait bouger. C'est pour ça que je disais, une langue est une énergie, une énergeia, jamais en repos. Elle n'est pas stable, elle n'est pas une fois pour toutes identique à elle-même. Et Dieu soit loué, aucune langue n'est à jamais identique à elle-même. C'est pour ça que le dictionnaire des intraduisibles, ça m'intéresse qu'il soit traduit.
Alors oui, on va revenir évidemment sur cette question qui peut faire sourire, mais qui est en réalité très sérieuse. Comment traduire le dictionnaire des intraduisibles? Peut-être d'abord un petit détour supplémentaire, Barbara Cassin. Les intraduisibles, on en a parlé ensemble la semaine dernière, donc non pas ce qu'on ne peut pas traduire, enfin non pas ce qu'on ne traduirait pas, mais ce qu'on n'a jamais fini de traduire, d'essayer de traduire, de ne pas traduire, hein, ce qui est instable dans la traduction, ce qui ne coïncide pas strictement. Évidemment, en philosophie, ça a une résonance particulière, mais c'est aussi la porte ouverte à cette manipulation d'autrui par le langage qu'a pu être un temps dans l'histoire de la pensée philosophique, la sophistique. Alors, quand on sait qu'un mot peut signifier plusieurs choses, quand on se donne le droit de faire dire n'importe quoi au mot, ou plutôt de jouer sur leurs équivoques pour manipuler son interlocuteur, on est dans la sophistique.
Mmh, est-ce que alors, je ne suis pas d'accord.
Mon résumé ne vous convient pas, alors je vous laisse corriger.
Non, vous êtes platonicienne, vous êtes prisonnière
Je suis dévoilée, démasquée.
D'une idéologie platonicienne quant à la sophistique. Mais les sophistes ont fait bien autre chose que cela. Ce ne sont pas des manipulateurs, ce sont des manipulateurs peut-être aussi, dans la mesure où ils s'arrêtent à la langue et au langage. Ce ne sont pas des manipulateurs, pour autant. C'est Platon qui pense qu'il faut partir des choses et non des mots. Mais les sophistes disent, regardez ce que vous faites, en fait, vous partez des mots. Et la première grande scène de la sophistique, c'est la scène entre Parménide et Gorgias, Gorgias montrant que le poème de Parménide, qui est censé dire « il y a de l'être » à la Heidegger, si vous voulez parfaitement interpréter par Heidegger, « il y a de l'être et voilà ce qu'il y a », en fait, le fabrique en parlant. Et il montre comment. Et il montre comment, en fait, l'être, y compris d'abord dans le poème de Parménide, est un effet du poème, un effet de dire. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle ontologie contre logologie. La logologie sophistique, ça n'est pas une manipulation. C'est aussi une critique de l'ontologie, un dévoilement de ce que c'est. Et donc, c'est quelque chose de très violent. Et on comprend que les ontologues patentés du genre Platon aient dit « Waouh ! Quel diable ! » Le sophiste est vite disons que c'est un pur manipulateur et un pur démagogue. Mais les sophistes sont ceux qui ont fait exister la démocratie comme intersection des langages, comme intersection des paroles, espace de discours. N'oublions pas que Platon était quand même plutôt, comme le dit Hannah Arendt, du côté des tyrans.
Bien sûr.
Et Heidegger. Elle les met dans le même sac et à mon avis, elle n'a pas tort. Elle appelle ça une déformation philosophique. Bon, les sophistes, c'est ceux qui montrent cette déformation philosophique.
Alors, l'un des points de départ de votre réflexion, alors collective hein, en réalité, sur la traduction du Dictionnaire des Intraduisibles, d'abord rédigé en français, c'était une question d'un de vos interlocuteurs qui vous demandait, au fond, est-ce qu'on part des choses, des concepts, est-ce qu'on part des mots? Comment on traduit le Dictionnaire des Intraduisibles? Comment se gère ce chantier d'une langue à l'autre?
Bien, d'abord, on veut quelque chose. Moi, quand j'ai fait ce Dictionnaire des Intraduisibles, c'était un moment très précis de l'Europe où je pensais que l'Europe devait avoir en tête ni Globish, donc ni Global English dont on parlait, ni nationalisme ontologique. C'était ça ma volonté. Je désirais que l'Europe comprenne que la diversité des langues était une chance. Bon. Alors maintenant, ceux qui traduisent le Dictionnaire des Intraduisibles ont chacun leur volonté politique. Je veux dire que le dictionnaire est philosophique autant que politique et politique autant que philosophique. Moi, j'ai expliqué là quelle était ma philosophie, la sophistique, et quelle était ma politique, ni globish, ni nationalisme ontologique. Quand les Anglais, quand les Américains ont traduit, et c'est fait, à Princeton, le Dictionnaire des Intraduisibles, au fond, ce qu'ils avaient en tête, c'était une espèce de résistance à cet anglais analytique qui interdit, on va dire, la French theory, mais pas seulement, qui interdit beaucoup de choses et qui fait croire que Aristote est mon collègue à Oxford. Non, Aristote n'est pas mon collègue à Oxford. Et l'épaisseur des langues et l'épaisseur de l'anglais comme langue et la manière dont l'anglais se nourrit et dont la philosophie peut se nourrir, par exemple, de la French theory, voilà ce qu'ils avaient en tête. Aujourd'hui, c'est traduit aussi entièrement en ukrainien. Et ça commence à être traduit en russe. Et par les mêmes.
Et l'enjeu est à chaque fois, de se créer une réflexion philosophique en même temps que d'importer un outil.
Absolument. Et en arabe, c'est très clair aussi. Il y a une portion qui est traduite en arabe, toute la portion qui concerne le droit et la loi. Montrer qu'il peut y avoir un autre type de réflexion sur le droit et la loi. Que nomos, charia, Torah, mettons ça en rapport. Réfléchissons ensemble. Bon. Et c'est pour ça que je serais très heureuse qu'il soit traduit en hébreu.
Alors en hébreu, évidemment, avec un contexte qui est tout à fait particulier, on fait bien évidemment de la philosophie en Israël, on en fait à l'université, à très haut niveau, il y a des gens évidemment très forts et très compétents, mais dans le système d'enseignement public israélien, on ne fait pas de la philosophie comme on en fait en France en classe de terminale. On peut faire de la Bible, du commentaire de la Torah, on peut faire de l'éthique juive, on peut faire de la pensée juive, mais le cours de philosophie tel qu'on le pratique, nous, en France, et tel qu'on l'impose comme une initiation nécessaire à tous les jeunes de 17 à 18 ans, ça ne se pratique pas. Alors, comment faire de la philosophie en hébreu, c'est-à-dire dans cette langue qui est à la fois la langue du quotidien, la langue de communication courante, cet hébreu profane, cet hébreu moderne réinventé récemment, mais l'hébreu qui est en même temps la langue sacrée, quelle épaisseur linguistique.
Voilà, vous mettez le doigt sur le point qui serait à traiter et que d'ailleurs Adi Ophir, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui est maintenant professeur à Brown, mais qui était professeur à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv et à laisser là-bas une unité qui s'appelle un centre de recherche qui s'appelle Minerva, avec lequel je suis en rapport constant, Adi Ophir, souhaite, j'espère toujours, réfléchir au rapport entre l'hébreu langue sacrée et l'hébreu langue quotidienne pouvant devenir philosophique. Et c'est ça le point qu'il s'agirait de travailler en transportant ce dictionnaire des intraduisibles de la métalangue française à la métalangue hébreu. C'est ça qui serait nécessairement en question, et mis en cause, et mis en efficace.
Je pense, en vous écoutant, Barbara Cassin, au très beau film de Nouri Taviv, D'une langue à l'autre, Misafal et Safa, où il est question, en compagnie, je crois me souvenir, d'une demi-douzaine d'écrivains, d'artistes, de cet hébreu qui est à la fois langue sacrée et langue profane, les écrivains étant ceux qui se souviennent, qui vibrent encore de cette épaisseur, évidemment, linguistique, que le grand public n'a pas forcément en tête au moment où il utilise les mots de l'hébreu moderne.
Vous faites bien d'appeler là Nouri Taviv parmi nous, parce que c'est avec elle que je travaille beaucoup. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a présenté Adi Ophir. Et c'est autour de cela, c'est cela qui m'intéresse, vraiment. D'ailleurs, j'ai tourné même dans un film de Nouri. Annonce.
Ah oui, c'est vrai, oui. Exactement. Oui. Le dictionnaire des intraduisibles a un prolongement, un projet de recherche sur lequel vous travaillez aussi à la suite de cette exposition que vous avez montée récemment à Marseille, au MUCEM, après Babel traduire. Ce projet de recherche, c'est une réflexion sur les intraduisibles des trois monothéismes, c'est-à-dire le rapport des trois langues sacrées des monothéismes à la traduction.
Oui. Oui, à la fois réfléchir sur les mots autour desquels chacun des textes s'enroule, sans lesquels il ne serait pas lui. Comment dit-on Dieu dans chacun de ces livres sacrés? Comment dit-on croire, par exemple? Et puis, donc, comment le dit-on dans la langue, c'est-à-dire hébreu, araméen, grec, latin, arabe? Donc là, on a commencé à travailler là-dessus. On a fait plusieurs séminaires, justement, au moment de l'exposition, en particulier parce que dans cette exposition, j'ai posé la question « Et la parole de Dieu, comment la traduit-on ? La traduit-on ?» Donc là, il y a une double vexion de traduction. La première, c'est la manière dont ce que Bachir Diagne appelle la traduction verticale, comment ça passe de Dieu à l'homme, avec la révélation. Je mets des guillemets à tout ça, y compris à Dieu, hein, y compris à homme, y compris à révélation. Et la traduction horizontale, c'est-à-dire comment ça passe d'une langue à l'autre. Donc, c'est ces deux choses-là qui ne sont pas les mêmes dans les trois livres. C'est-à-dire que le rapport à la traduction en arabe avec le Coran, vous savez qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Mais le Coran est en arabe. En revanche, la traduction est immédiatement présente au cœur de la problématique, disons, de la Torah et de la Bible hébraïque. Elle est présente à son cœur et elle est présente, elle est liée à l'interprétation.
Et du coup, le rapport à la sacralisation de la langue n'est pas le même aussi. Je précise aussi que ce projet, hein, les intraduisibles des trois monothéismes, ne vise pas à fabriquer une concordance un peu artificielle des registres de valeurs entre les trois monothéismes. C'est pas une réconciliation un peu factice des concepts et des valeurs. C'est quelque chose de plus dynamique, un
approfondissement des mots.
Merci beaucoup, Barbara Cassin. On a envie de poursuivre en votre compagnie cette discussion. On poursuivra en lisant et en relisant, du coup, vos livres, ceux déjà édités, dont L'éloge de la traduction compliquée l'universel aux éditions Fayard, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui et la semaine dernière. Et puis les suivants, du coup, sur les intraduisibles des trois monothéismes. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission et la précédente, donc qui fonctionne en binôme, peuvent être réécoutées en ligne sur le site de RCJ, www.rcj. Radio-RCJ.info, excusez-moi, et que cette émission a désormais son podcast auquel vous pouvez également vous abonner sur l'application RCJ. Merci beaucoup, Barbara Cassin.
Merci à vous.
Et bonne semaine à tous.
C'était le bénéfice du